Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, hein, comme tous les lundis, 19h-20h30 sur la radio du sport Mon Paris FM, dans votre émission sport Mon Paris Sport. Alors, on avait parlé de pétanque la semaine dernière, on avait parlé aussi d'aviron il y a 15 jours. Aujourd'hui, on va tout savoir sur le MMA avec notre invité, j'allais dire pratiquement le créateur du MMA dans notre région, sur Paris, donc Mathieu Nicourt. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Ouais, c'est un plaisir. Hein, donc j'allais dire créateur du MMA en France, c'est pas galvaudé.
Alors pas créateur de la discipline, mais ouais, un des pionniers de la discipline, en tout cas, et sans doute créateur peut-être du premier club en France.
Voilà. Très bien, donc on va avoir largement l'occasion de revenir sur un sport très pratiqué, très populaire. Hein. Il y a beaucoup de sports de combat sur le 13e. Hein.
Oui, il y a beaucoup de sports de combat sur le 13e. Moi, je suis originaire du 13e, donc c'est là que j'ai découvert les arts martiaux et sports de combat. Et puis, j'ai découvert le MMA quand il est apparu à son origine. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai commencé à le pratiquer.
Très bien. Alors, il nous parle de MMA tous les deuxièmes lundis du mois. Exceptionnellement, il est venu donc pour le premier lundi, parce que là, il va avoir largement l'occasion de parler MMA pendant presque une heure. C'est Benoît. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir tout le monde.
Ça va ?
Ça va très
bien. Oui, t'es venu accompagner en plus.
Toujours,
donc il pourra intervenir s'il veut. Hein.
Exactement, mon acolyte Souleyman.
Voilà.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, ok. Très bien. Et puis, je vais saluer aussi celui qui nous a concocté encore un beau journal des sports. Il n'a pas quitté la télé, il a suivi tous les événements sportifs de ce week-end. C'est Alexandre. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, salut à tous, ça va super.
C'était un bon week-end de sport ?
Franchement, gros week-end, grosse semaine et j'ai hâte de vous raconter tout ça.
Très bien. Et puis, elle va rien hâter de la flamme. À partir de mercredi, on va savoir tout partout où se passe la flamme en France. C'est Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Ça va ? Bon, la flamme, ça arrive mercredi à
Mercredi
à Marseille.
À bord du Belém.
Oui. Hein, donc tu vas nous en parler. Hein.
Tout à fait. Voilà. Ça va être une belle arrivée dans la cité phocéenne.
Ouais. L'actu olympique. Voilà. Alors Mathieu, donc cette passion pour le MMA, elle vient comment ? Elle arrive comment ? Parce que je l'ai dit, beaucoup ont commencé par d'autres sports de combat avant de bifurquer sur le MMA.
Alors moi, j'ai forcément commencé par d'autres sports de combat parce que quand j'étais plus jeune, le MMA n'existait pas.
Oui.
Parce que je l'ai vu, je fais partie de cette génération qui l'a vu naître. Donc moi, j'avais commencé par les arts martiaux traditionnels, karaté, jujitsu japonais. Et puis, pourquoi le MMA ? Parce que je pense que c'est pareil pour tous les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Il y a un peu le mythe de qui est le plus efficace en combat, des techniques les plus efficaces. Et quand on a entendu parler des premiers... Alors au début, le mot MMA n'existait pas, mais des premiers Ultimate Fighting, c'est comme ça qu'on a entendu parler de la discipline. C'était pour un peu le fantasme pour moi de tous les pratiquants et sports de combat, c'est-à-dire un espace où toutes les techniques ou presque étaient autorisées, où on pouvait vraiment savoir qui était le plus efficace quand il n'y avait presque pas de règles. C'était moi cet aspect-là qui m'a plu parce que c'était l'épreuve de vérité par rapport à ma pratique.
Mmh. Oui, c'est un regroupé de toutes les différentes disciplines, finalement. La boxe, la lutte notamment.
C'est ça. Alors, au tout début, c'était surtout un espace libre où chacun venait avec sa discipline de prédilection.
Oui.
Un boxeur affrontait un judoka, un karatéka... un pratiquant de kung-fu, etc. Et puis, petit à petit, les techniques se sont complétées les unes les autres et c'est devenu maintenant un sport de combat extrêmement complet qui regroupe effectivement à peu près toutes les
techniques. Et ça a été légalisé, on en parlait hors antenne, par la ministre Roxana Maracineanu.
Oui, c'était, je crois, Laura Flessel qui avait lancé la démarche et c'est Roxana Maracineanu qui a terminé... et qui a entériné la légalisation de notre sport. On avait attendu à peu près 25 ans quand même.
Oui, alors aujourd'hui c'est vraiment un des sports phares sur le plan des sports de combat, ça bat même la boxe. Nous, on est une génération, on a vécu avec les grands combats de boxe anglaise. Aujourd'hui, on ne parle que de MMA, quoi.
Ouais, alors moi, j'ai connu toute la période de l'entre-deux où c'était déjà un sport très populaire.
Oui.
Surtout dans les milieux populaires, justement, dans un premier temps, qui petit à petit a remplacé la boxe thaï comme sport de combat ultime.
Oui.
Mais le fait que ça ne soit pas reconnu officiellement en France freinait quand même le développement de la discipline par rapport à tous les autres pays du monde pratiquement où c'était autorisé. Et la légalisation, il y a 4 ans, a permis à la discipline de prendre encore une autre ampleur.
Et vous, je l'ai dit, vous êtes le fondateur, alors pas de ce sport en France, un des premiers pratiquants, mais vous êtes le créateur et le fondateur du premier club sur Paris, sur le 13e tout du moins.
Oui, bah, peut-être le premier de France,
ça restera
à vérifier, mais ouais, j'étais un des premiers compétiteurs français, je pense le premier champion à avoir des titres. Il y a déjà très longtemps maintenant.
Ouais.
Et puis, comme la discipline n'existait pas...
C'est quoi vos titres? Allez, pas de modestie quand même.
Dans les plus importants, j'ai été 2 fois champion d'Europe de Val Tudo. C'était en Angleterre. C'était la principale plaque tournante en Europe. Et c'était à l'époque la seule organisation professionnelle anglaise. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup.
Alors, j'ai lu aussi, il y avait le Pancras et le Gapling, c'est ça?
Alors, le Pancras, c'était l'autre titre important, le plus important de tout, c'est que j'ai gagné le tournoi des poids légers de l'IFC. Ça, c'était au Canada. C'était en janvier 2000, donc ça fait très longtemps déjà.
D'accord.
Voilà. Et le Pancras, c'était pendant toutes ces années où nous, on a pratiqué en France et où on devait combattre à l'étranger en MMA, il y avait quand même des combats en France, mais sous l'appellation Pancras, avec des règles qui n'étaient pas exactement celles du MMA à l'international, mais qui permettaient aux combattants français de s'exprimer, de prendre de l'expérience avant d'aller combattre à l'étranger. Donc là, on a eu la reconnaissance du sport avant l'heure avec l'appellation Pancras. Et la différence, c'est que ça se faisait dans un ring. Ouais. Un ring de boxe, c'est pas un octogone grillagé.
Oui.
Et que les frappes au sol étaient interdites.
Alors justement, ça fait beaucoup polémique cet octogone. On dit oui, c'est les fauves qu'on lâche. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Moi, je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, faut pas non plus que se mentir. L'aspect cage...
J'en ai connu qui m'ont dit ça, hein. Dans l'entourage.
Moi aussi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Alors, l'aspect, d'abord, nous, c'est vrai que dans le jargon, on appelle ça une cage.
Oui.
Donc, cage, ça renvoie forcément à des animaux. Je pense que les promoteurs ont joué sur l'aspect spectacle en rajoutant un petit peu. Donc, ça, c'est pour le côté spectacle. Mais surtout, pour nous, sportifs, c'est une aire de combat qui, avant tout, est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus adaptée à notre pratique. Le fait, par exemple, d'avoir dû combattre pendant des années. Alors, les premiers combats de MMA se faisaient aussi bien en ring de boxe.
Oui,
Il y a eu des très grosses organisations comme le Pride qui ont continué à se faire en ring pendant très très longtemps. Il y en a encore maintenant quelques-unes, même si la cage, l'octogone, est devenue la norme pour presque toutes les organisations. Ça a commencé dans des rings de boxe et l'octogone grillagé a cet énorme avantage que nous, dans notre sport, on a des techniques de lutte en plus de la boxe. Que donc on peut soulever un adversaire, le projeter et passer entre les cordes des rings de boxe. J'ai déjà vu plusieurs fois des combattants se retrouver à l'extérieur, tomber du ring sur les tables des juges. Donc c'est beaucoup plus dangereux pour notre pratique. Le ring de boxe n'est pas le plus adapté, alors que le grillage permet d'éviter ce type de risque. C'est son principal intérêt. Donc il y a un aspect spectacle bien sûr qui a été mis en avant, mais c'est avant tout sécuritaire et beaucoup plus adapté à la discipline.
Benoît, ça t'inspire un commentaire là, Mathieu, en fait, qui est une icône de ce sport.
Ça fait plaisir parce qu'en fait, à travers ton discours, on retrouve un peu tout l'historique du MMA. On se rend compte que le MMA, en fait, c'est très récent qu'il est légalisé en France. Et dernièrement, avec Souleymane, on était présent au MMA League. Et justement, on a pu interviewer parmi des gens qui faisaient partie de l'organisation, du fait qu'ils ont pu voir justement cette évolution, le changement entre la période où c'était entre guillemets illégal, où il y avait plein de restrictions, où maintenant c'est légal. Et en plus de ça, il y a tout l'argument qu'il y a autour aujourd'hui. Mm-hmm. Et moi, ce qui me fascine, c'est que tu disais que déjà à l'époque, ça fascinait beaucoup, il y avait beaucoup de fantasmes. Et moi, je te rappelle aussi dans le cinéma, en fait, il y avait beaucoup de films où on voyait différents combattants avec différents styles de combat.
Ils vont en parler du cinéma parce qu'il a joué dedans Ils vont en parler,
mais
c'est bien.
Mais du coup, du coup, même dans le cinéma, il y a toujours eu ce fantasme, en fait, du MMA.
Bien sûr. Alors moi, je devais avoir ton âge à l'époque, tu vois, mais il y avait eu les films de Bruce Lee, évidemment.
Oui, oui. Kung Fu, ça, quand même. Hein. C'est un petit peu différent.
Bah, Bruce Lee, c'était déjà plus du Kung Fu, parce que lui s'intéressait déjà au combat réel et cherchait les techniques les plus efficaces en allant chercher un peu dans tous les arts martiaux. Et puis, il y a eu un petit peu après le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, où c'était vraiment un combat alors, inspiré de faits réels, une ère combat où tous les combattants s'affrontaient, enfin une ère de combat et où il n'y avait pas de règles presque, et qui nous a beaucoup fait fantasmer à l'époque, nous. Et quand on a vu le premier UFC et que le MMA est né, c'était notre fantasme qui se réalisait en vrai. Quoi.
On va rappeler, UFC, c'est la Fédération Internationale, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop.
UFC, c'est... Ouais. En fait, il y a plusieurs organisations de MMA.
Comme en boxe anglaise, quoi.
Oui, mais même encore plus pour le MMA, et l'UFC, c'est la plus grosse organisation de MMA au monde actuellement.
D'accord, Suleiman. Ça t'inspire un commentaire?
Plusieurs, j'aimerais rebondir sur l'aspect des films, notamment, puisque si on parle de Bruce Lee et qu'on se penche sur son histoire, en fait, Bruce Lee était véritablement un chien des rues, en fait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui combattait énormément dans la rue et à qui, à la base, le kung-fu n'était pas... On n'était pas censé lui enseigner, justement. Les maîtres donc chinois ne voulaient pas enseigner le kung-fu à Bruce Lee puisqu'il n'avait pas ces valeurs que transmet l'art martial.
D'accord.
Et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il a beaucoup inspiré et aidé aux premiers Ultimate Fighting, non ?
Alors, inspiré, il était mort. Hein, donc,
oui, je sais très bien.
Mais effectivement, enfin, je dirais que c'est peut-être le pratiquant le plus médiatisé, évidemment, qui a le plus eu ce souci de se détacher un peu du côté strictement traditionnel pour rechercher l'efficacité pure, donc les techniques les plus efficaces, sans se cantonner à une chapelle, en fait. Donc lui, il vient des arts martiaux traditionnels chinois, c'est le Wing Chun Kung Fu au début. Puis il a très vite vu qu'il y avait des techniques qui marchaient pas avec les gars plus costauds, qui machin, etc. Et donc il a été chercher un peu dans les différents arts martiaux et sports de combat d'autres techniques pour créer son propre style qu'il avait baptisé Jeet Kune Do à l'époque. Mais il y avait cette recherche d'efficacité et sans règles. Ça, c'était très important pour lui. Il trouvait que tous les systèmes d'arts martiaux qui existaient à cette époque-là étaient beaucoup trop réglementés et pas réalistes.
Oui, et c'est pour ça que j'appuie sur le côté rue, justement.
Certains disent même que c'était le précurseur du MMA. Je ne sais pas si vous partagez cet avis.
En fait, d'une certaine façon, oui. Moi, j'étais très jeune, mais j'avais déjà acheté à l'époque les bouquins de ces méthodologies qui avaient été éditées dans les magasins spécialisés. Et il y avait vraiment déjà cette synthèse, cette idée de recherche d'efficacité de toutes les techniques. C'est aussi un des premiers qu'on a vu mettre même dans ses films des techniques de grappling, de combat au sol, ce que personne faisait à cette époque-là, parce qu'il avait sans doute déjà vu que c'était important pour le combat réel, même si c'était pas sa spécialité. Mais c'est une sorte de précurseur, oui.
Alors justement, allez, comme ça sera fait. Vous êtes, à travers le MMA, venu au cinéma. On est allé vous chercher justement pour jouer un de ces rôles.
Oui, on est vraiment venu me chercher. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé, parce que je ne l'ai pas cherché du tout. Ça s'est fait par hasard. Et paradoxalement, je n'ai pas joué dans des films pour un rôle de sport de combat.
Ah bon ?
Il s'est trouvé que c'était le premier rôle important que j'ai eu. C'était par le réalisateur français Guillaume Niclou, qui avait demandé, je crois, aux directrices de casting d'aller regarder un petit peu dans le milieu des arts martiaux, des sports de combat et du MMA en particulier, parce qu'il s'y intéressait, parce qu'il cherchait un gars pour faire un méchant. En fait, mais du coup, le premier film, c'est en gros un film policier dans lequel je joue, où j'ai un flingue et où il n'y a aucune scène de sport de combat. En fait,
D'accord. Ah oui, complètement. Ouais. Et il paraît que vous avez enlevé Vanessa Paradis.
Ouais, ça c'était ma toute première expérience chouette au cinéma. Je séquestre Vanessa Paradis.
Ouf. D'accord,
incroyable.
Ah ouais. Et c'était la seule expérience ou il y a eu d'autres films ?
Non, il y en a eu d'autres après. Ouais. Alors, quelques autres films où j'ai eu des petits rôles, mais pour les trois gros rôles importants, c'était à chaque fois avec Guillaume Niclou. Donc ça, c'était le premier, c'était dans La Clé, donc avec Vanessa Paradis, Guillaume Canet, il y avait Jean Rochefort.
Incontournable, Jean Rochefort.
Une expérience extraordinaire. Ouais. Et ensuite, les rôles les plus importants, c'est Guillaume Niclou qui me les a donnés. Donc, c'était dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq, qui est paru au cinéma à l'étranger, mais en France, en télévision uniquement, puisqu'il était coproduit par Arte. Où ça a été, c'était une expérience absolument extraordinaire. Et donc, du coup, je donne une leçon de MMA à Michel Houellebecq dans le film, ce qui était assez extraordinaire. Et le dernier, c'était Thalasso au cinéma avec Michel Houellebecq, Gérard Depardieu également.
Ah oui, quand même. Et alors, ça vous a ouvert des portes? Vous allez refaire ce genre de choses?
En fait,
c'est deux mondes différents quand même.
Oui, alors c'est deux mondes complètement différents. Ça m'a ouvert des portes, mais en fait, j'ai pas de contrôle. C'est-à-dire que pour le cinéma, je me suis bien pris un agent qui m'est parti à la retraite, du coup, et puis j'en ai pas repris parce que je sais pas. En fait, à chaque fois, on me contacte moi directement et pas mon agent. Mais en fait, c'est complètement. C'est pas moi qui le recherche. Tous les cinq ans, on me propose quelque chose. Ça me tombe dessus, peut-être que là ça sera dans 2 ans, peut-être que là ça sera plus jamais. Voilà, c'est quand
c'est
ça arrive.
Secondaire, c'est le fun, c'est pour le plaisir.
Voilà, c'est pour le plaisir. Voilà. Quand ça arrive, ça arrive. Voilà.
Et alors avec Paradis, c'était comment? Est-ce que c'était l'enfer?
C'était.
Tout savoir.
En fait, j'ai exactement le même âge que Vanessa Paradis. Je crois qu'on est né la même année. Bon, j'étais comme tous les ados de mon époque. Un peu fasciné par Vanessa et de me retrouver dans un film avec elle et en plus avec des scènes comme c'était une scène un peu osée où je m'attendais pas du tout à ça ça a été une expérience extraordinaire. Elle a été très chouette, très abordable.
On n'en doute pas, c'était juste une petite blague.
Donc l'activité principale, c'était quand même de vivre des arts martiaux. Donc, vous êtes devenu, vous avez passé le STAPS, vous êtes devenu éducateur, coach. Alors,
en fait, j'ai fait des études STAPS. Mon premier boulot, c'était professeur de PS, en collège et lycée. Et puis, ça me donnait une équivalence pour un brevet d'état d'éducateur sportif. Et quand j'ai commencé à m'entraîner en MMA, il n'y avait pas de salle pour le MMA, parce que le sport n'existait pas. Ouais. Donc, j'ai créé la mienne et je suis devenu entraîneur en même temps.
Mmh. Et ça a été facile? Des portes se sont ouvertes? Parce qu'à l'époque, c'était un sport très, très, très confidentiel.
Je dirais pas que ça a été facile ou difficile, mais comme j'étais passionné et que c'était le but de ma vie...
Ça finit par réussir, quoi.
Je me suis pas posé la question. Il fallait absolument que je fasse ça. C'était nécessaire pour mon équilibre. J'avais pas le choix. Je me suis pas laissé le choix. Et puis.
Donc ça, c'était en 1995.
La première association que j'ai créée, c'était 95, et qui s'est appelée Free Fight Academy, le nom actuel de mon club, en 97.
D'accord. Okay. Et aujourd'hui, il y a deux sites sur lesquels cette académie existe.
Voilà, on a deux salles. Donc on a, moi, j'ai une salle privée qui est sur Vitry-sur-Seine. Et il y a un historique sur Paris 13e, donc on a des créneaux de la ville de Paris, au gymnase de la Pointe d'Ivry, sur Paris 13e.
D'accord. Vous êtes combien dans votre section à l'heure actuelle?
Alors, on est beaucoup, on en discutait tout à l'heure.
C'est bien.
Je dirais que il y a peut-être en tout peut-être 250-300 adhérents sur les deux clubs réunis. Mais sur le club de Paris 13, où sur le club de Vitry, on fait du MMA, on fait de la boxe thaï, du JJB, de la boxe anglaise. Donc il y a plusieurs intervenants, plusieurs disciplines. Sur le club du 13e, on est centré que sur le MMA. Je dirais qu'il y a peut-être 70-80 adhérents, quelque chose comme ça.
Et je suis témoin, juste avant l'émission, vous avez encore reçu des coups de fil pour des demandes d'inscription.
Oui, on a des demandes assez fréquentes. Le club a beaucoup de succès, des nouvelles générations, et surtout, on diversifie nos publics. Depuis la légalisation, c'est vraiment un des effets ressentis. Mmh. On était un petit peu un sport, peut-être avec une réputation un peu sulfureuse, qui fait que ça se développait beaucoup dans les quartiers, et vraiment presque exclusivement dans les quartiers pendant une période. Et depuis, ça avait commencé avant, mais encore plus depuis la légalisation. Il y a vraiment une mixité des publics, donc qui viennent de partout, de tous les milieux sociaux, et ça permet vraiment aux gens de se rencontrer, et c'est vraiment quelque chose de très chouette.
Quand un jeune ou une jeune veut faire ce sport, aujourd'hui, il n'y a plus de réticence de la part des parents en disant « attention, c'est un sport violent ».
Je pense qu'il y en a toujours forcément un petit peu, comme chez n'importe quel parent qui est un peu inquiet et qui ne comprend pas très bien ce que fait son enfant. Mais ils sont vite rassurés et effectivement, c'est beaucoup plus facile. Ça s'est beaucoup démocratisé.
C'est-à-dire, vous êtes l'attrangeage, ça va d'où à où vous êtes
Je dirais que c'est peut-être dans les 20-30 ans où on a la plus grande tranche.
Il n'y a pas des tout jeunes qui viennent.
On a des tout jeunes, on a des
ans,
enfants
ans,
à partir de 6 ans. Oui. Voilà. Et puis on a des quarantenaires qui viennent, des cinquantenaires aussi.
Voilà. C'est-à-dire que ces jeunes-là, on leur apprend ce sport sous forme ludique, je suppose.
Oui, bien sûr, c'est un, c'est un travail à la touche pour les percussions. Il n'y a pas de plein contact pour les enfants. Et puis il y a certaines clés, des techniques de soumission qu'on va pas pratiquer pour les plus jeunes. Et on va en autoriser de plus en plus avec l'âge, effectivement.
Et combien de créneaux d'entraînement ?
Alors, on a des cours tous les jours sur la salle de Vitry. Et on a 3 créneaux par semaine sur Paris 13, donc le lundi, mercredi, samedi.
Ouais, alors c'est en fonction des tranches d'âge, en fonction des... Alors, des spécialités qu'on prend ?
Oui, voilà. Donc là, sur le 13e, c'est 3 cours ados, adultes, ouverts à tous. Lundi, mercredi soir et le samedi matin.
D'accord. Donc si Benoît veut venir vous rejoindre, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il attende la rentrée maintenant ?
Alors, c'est ce que je disais aux gens qui appelaient tout à l'heure. Oui. C'est pas nécessaire d'attendre la rentrée. Okay. Les inscriptions chez nous se font de date à date, donc tu peux t'inscrire à n'importe quel moment de l'année.
D'accord.
Voilà. Ok, super.
Et il y a des initiations, non, gratuites ? On peut essayer, et puis bon,
alors,
ça me plaît pas.
On peut prendre une séance d'essai. Alors, comme on avait beaucoup, beaucoup de monde, c'est plus gratuit. Ça coûte 12 euros la séance d'essai. Comme ça permet de filtrer un peu et que seulement les gens vraiment intéressés viennent.
Voilà. Moi, je me demandais, justement, vu qu'il y a cette popularité désormais, est-ce que, déjà de base, est-ce que maintenant, le MMA, selon vous, n'est pas en train de redorer l'image des sports de combat? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est le sport qui était le plus mal vu, qui est en train de prendre la place que d'autres sports de combat n'arrivaient pas à prendre, même les sports traditionnels français comme la savate. Et en plus de ça, est-ce que c'est pas clairement en train de prendre la place du noble sport que la boxe en fait était? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MMA, ça devient... la référence.
Ah, médiatiquement, c'est sûr qu'on en parle plus que la boxe maintenant.
Dans les mentalités.
Ah, oui, oui, maintenant, c'est sûr.
En fait, du fait que médiatiquement, on en parle beaucoup plus, dans les mentalités en général, maintenant, c'est devenu le sport de combat roi. Enfin, ça l'était déjà un peu partout dans le monde, mais en France, là, depuis la reconnaissance officielle, la légalisation, c'est vraiment devenu la référence. C'est-à-dire que moi, il y a une dizaine d'années, j'avais beaucoup de membres de ma famille qui n'étaient pas là-dedans. Le MMA, ils avaient une très vague idée de ce que c'est. Maintenant, j'ai des neveux dont les parents n'étaient pas du tout là-dedans et n'aimaient pas du tout cette idée-là, qui pratiquent en fait. Donc, il y a une vraie évolution. Et effectivement, comme tu disais, je pense que ça permet... Alors, il y a eu beaucoup de... Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles le MMA a été officiellement interdit en compétition en France pendant tellement d'années, c'est parce que les autres fédérations de sport français, de sport de combat, notamment le judo, avaient très peur qu'on leur pique beaucoup de licenciés et qu'ils ont freiné des cas de fer. Et comme le judo, c'est la discipline reine des sports de combat et des arts martiaux en France, ils étaient très influents au ministère des Sports et c'était eux qu'on écoutait très longtemps. Je pense que maintenant, ils ont compris que l'un n'empêchait pas l'autre, en fait. Et je dirais, bon, le judo était déjà très populaire en France, mais l'avantage du MMA, c'est qu'il permet justement de mettre en lumière des sports de combat qui n'étaient pas. Par exemple, personne dans les arts martiaux s'intéressait à la lutte.
Clairement.
La lutte, alors...
Sauf nous, hein. On a reçu le Paris lutte.
Voilà,
mais le Paris lutte olympique.
MMA a permis de remettre la lutte sur le devant de la scène en montrant à quel point c'était important dans le MMA d'être performant dans la partie lutte.
Oui, parce que c'est un sport ancestral, la lutte. Hein.
C'est un sport ancestral qui, par exemple, aux États-Unis, la lutte, c'est quelque chose qui est important. Dans la fédération de Russie aussi. Il y a plusieurs pays du monde où c'est un sport de
en Asie, c'est un sport très pratiqué, très bon lutteur.
Mais par contre, en France, c'était vraiment le parent pauvre. Quoi. En fait, en France, le judo a remplacé la lutte.
Et le taekwondo ?
Alors, taekwondo, c'est encore autre chose.
Oui, c'est encore une autre philosophie.
Mais donc, du coup, personne s'intéressait à la lutte en France depuis très très longtemps. Enfin, bien sûr, il y avait des aficionados, mais moi, je me suis intéressé à la lutte par le MMA.
D'accord.
Donc j'ai pratiqué la lutte, j'en ai fait un petit peu en compétition aussi. Et en fait, c'est vraiment par le MMA que j'ai découvert la lutte et je pense que beaucoup de gens en France. Donc, par exemple, je pense que le MMA apporte de la lumière à d'autres pratiques qui ne sont pas suffisamment mises en lumière.
Et justement, c'est ce que j'allais dire, et c'est même une affirmation que j'allais donner, pas une question que j'allais poser, mais grâce au mix de tous ces arts martiaux, en fait, ça nous a permis de découvrir et d'apprendre l'existence d'autres sports de combat, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a cité le taekwondo, taekwondo qui n'était pas un sport très connu en France, puisque justement, le sport de combat règne en France et le judo l'a longtemps été.
Attention, parce qu'on a rencontré Pascal Gentil il y a quelques semaines à l'aéroport CDGA. Non, mais je blague. Oui, on l'a interviewé, mais enfin, bon, non, ben ça, c'est pour une petite histoire, vas-y.
Mais oui, judo, on a beaucoup de champions, on peut en citer, que ce soit en féminin et en masculin. Mais sur les autres sports de combat, Benoît a cité la savate. Savate qui.
Sport ancien aussi, ça, ancestral aussi.
Qui est un sport français qui n'est pas connu, la lutte qui a été appris, le taekwondo qui a été découvert. Je peux même citer le Viet Vo Dao, qui est beaucoup moins connu, mais qui a inspiré certaines techniques du MMA. Enfin, on peut vraiment citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports de combat grâce à ce sport qui est justement complet.
Je pense aussi, alors après il y a eu le MMA à ses débuts, ça a été un spécialiste dans une discipline qui en affrontait un autre, et puis c'est devenu un peu la réunion de plusieurs techniques, et maintenant c'est devenu un sport de combat à part entière avec ses propres enchaînements, ses propres combinaisons, mais qui sont bien sûr issues d'autres arts martiaux et sports de combat. Mais ça n'empêche qu'il y a des transfuges, c'est-à-dire qu'on peut faire une carrière en judo et se reconvertir en MMA ensuite. Ouais. Bien sûr, il y a un gros travail de réadaptation, mais il y a beaucoup de sportifs qui, comme ça, font d'abord une carrière dans un sport et en font une deuxième dans le MMA.
D'accord, donc c'est un sport de conversion ? Non ?
Alors, ça l'est pas forcément. Ouais. En fait, il y a beaucoup, ça c'était moins le cas à mon époque, mais ça l'est beaucoup plus maintenant. Il y a une majorité de pratiquants qui commencent par le MMA. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai entendu, non mais moi, le MMA, on m'a dit qu'on pouvait pas commencer par ça, qu'il fallait d'abord avoir fait un autre sport de combat. C'est pas du tout une nécessité. Il y a vraiment maintenant, même pour la partie lutte, pour la partie boxe, pour la partie travail au sol, une façon de travailler spécifique au MMA, parce qu'il y a des techniques, des enchaînements, des façons de faire qui sont développées spécifiques à cette discipline. Et donc, on peut tout à fait commencer par cette discipline sans rien avoir fait d'autre avec et aller à très haut niveau et devenir un très grand champion. Mais tous les chemins mènent à Rome. Il y a aussi d'autres sportifs qui ont fait un parcours d'abord en lutte, en judo, pourquoi pas en boxe thaï, et qui se reconvertissent, qui évidemment complètent leur bagage et se reconvertissent.
Bah, moi, justement, j'ai une question, parce qu'on a eu l'occasion lors du MMA League qui a eu lieu à Paris, d'interviewer pas mal de combattants. Et à chaque fois, j'aime bien leur poser cette question auquel tu as un peu répondu en amont, mais qui est que, est-ce que tu ne penses pas que les combattants qui viennent d'abord d'un autre art martial ou sport de combat ont un certain avantage vis-à-vis de ceux qui commencent par le MMA et du coup qui sont plutôt généralistes?
Alors, en fait, ça a été un peu une légende pendant très longtemps. C'est plus du tout le cas depuis maintenant assez longtemps. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, le MMA, c'est plus juste une juxtaposition de techniques. C'est des façons de travailler spécifiques pour le MMA. On ne boxe pas tout à fait pareil en MMA qu'on va boxer en anglaise ou en boxe thaï. On lutte pas, c'est pas exactement les mêmes préactions, les mêmes enchaînements qu'il va y avoir sur la partie lutte du MMA par rapport à la lutte olympique. Il y a une surface verticale qui est le grillage, qui n'existe pas dans les autres sports, qui compte beaucoup, qu'on a beaucoup appris à utiliser en MMA, qui demande un entraînement spécifique. Donc je pense que le mieux, si on veut faire carrière en MMA, c'est au contraire de commencer directement par le MMA, parce qu'on a des bases solides spécifiques à la discipline. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, on disait non, mais il faut faire. Alors moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était comme les Brésiliens, on avait découvert le jiu-jitsu brésilien, le travail au sol en même temps. Tout le monde pensait il faut être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien pour pouvoir faire du MMA, et il faut être bon en boxe thaï, et comme ça. Et puis, en fait, tu t'aperçois qu'il y a plus de la moitié des techniques de jiu-jitsu brésilien que tu ne peux pas utiliser pour le MMA. En MMA, parce que oui, il y a des techniques de sol qui viennent de cette discipline, mais qui ont été transformées, qui ont été adaptées. Et il y en a d'autres qui sont contre-productives en MMA. Ça va être la même chose en boxe, ça va être la même chose pour certaines techniques de lutte. Donc, si tu te dis, je vais faire 5 ans de lutte pour être bon en lutte, et puis 5 ans de boxe pour être bon en boxe, et puis 5 ans de boxe, bah, en gros, tu commences... Tu commences le MMA à 35 ans, quoi. Donc, il y a vraiment des techniques spécifiques pour le MMA maintenant, une façon de travailler spécifique au MMA qui fait que je pense le meilleur chemin, c'est de commencer directement. Mais néanmoins, t'as des champions d'autres disciplines qui réussissent leur reconversion.
Alors, Mathieu, il y a une fédération française maintenant, il y a une licence d'une fédération française à part entière.
Alors, pour l'instant...
Si on prend une licence, on vient vous rejoindre, ça coûte combien d'abord? Et puis, est-ce qu'il y a une fédération française à part entière? Comme c'est maintenant un sport qui est légalement reconnu.
On est sous tutelle de la fédération de boxe,
oui,
la fédération,
d'accord.
ce que nous on appelle la boxe anglaise.
D'accord. Donc
c'est elle qui gère le MMA. D'accord. Donc, il y a une fédération qui s'appelle FMMAF, Fédération Française de MMA. Fédération de MMA française, si on veut mettre les lettres dans l'ordre, mais qui finalement est une appellation puisque on dépend pour l'instant de la fédé. On est sous tutelle de la
fédération française de boxe.
Mais la vocation, c'est qu'effectivement à terme, il y a une fédération indépendante de MMA.
Et ça coûte donc combien si on vous rejoint? Alors on parlait du prix de la séance, mais si on prend une licence sur l'année?
Bah, en fait, quand tu dis une licence, tu veux dire une inscription,
oui,
une inscription dans un club.
Ou et puis l'académie. Ouais.
Bah, en fait, ça va être très variable. Ça va être très variable. Tu peux trouver des inscriptions à 350 euros comme à 800 euros. Quoi. Ça dépend quel club, ça dépend quels services sont proposés.
Non, mais à l'académie...
Alors, chez nous, à la Free Fight Academy, je pense qu'on a des prix qui sont assez bas, effectivement. Ça commence pour les étudiants à 390 euros pour un an.
D'accord. Ça, avec le droit de faire de la compétition?
Avec le droit de faire de la compétition, pour ceux qui ont le niveau requis. Ouais.
Il y a un profil type?
Il n'y a pas de profil type.
Si on fait 90 kilos ou 60 kilos, c'est
non,
pas interdit.
Alors, c'est comme dans beaucoup de sports de combat, on est un sport avec des catégories de poids. Donc on peut faire 50 kilos.
Ouais, c'est bien ça.
Enfin, 50, il y en a moins. Mais par exemple, là maintenant, à la MMA League, il y avait une catégorie moins de 52 kilos hommes. Donc même les plus petits gabarits ont une possibilité de s'exprimer, de montrer leur bagage technique. Et puis, il y a les poids lourds qui font plus de 93 kilos. Donc en fait non, il y a vraiment toutes les catégories de poids et il n'y a pas de profil type. Tu vois, on était à la MMA League de Paris, on a fait de bons résultats et on parlait des profils et puis on a fait le championnat de France de Pancrace après qui finalement est du MMA aussi maintenant, donc c'est une autre fédération. En gros, dans les profils, j'ai pas mal de combattants qui sont d'origine étrangère. J'ai notamment des Moldaves et des Afghans.
C'est
mes grands pourvoyeurs actuels. Qui ont fait de bons résultats. Et j'ai un petit jeune qui s'appelle Guillaume Le Brasseur, qui est ni d'origine afghane ni d'origine moldave, comme son nom l'indique. Et en fait, sa particularité, c'est que quand il arrive, il a l'air un peu perdu. On a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il est venu faire là. Et en fait, il a fini finaliste du championnat de France après avoir gagné ses deux premiers combats.
Ah ouais.
Et le coach de l'adversaire est venu le voir après son victoire et lui a dit « Tu es l'illustration même de l'expression « Faut pas juger un livre à sa couverture. » C'est comme quoi, il n'y a pas
comme
de profil
quoi.
Type. Tu vois.
Très bien. Voilà. Allez, la pause musicale, on continue à parler MMA ensuite, avec donc Orchestral Manoeuvre in the Dark et Enola Gay. On y va. KFAN. Voilà, donc un petit mot. Vous aimez tous les sports, Mathieu, pas trop ?
Alors, j'aime tous les sports. Par contre, je ne m'intéresse pas à tous. Il ne faut surtout pas me poser de questions sur le foot. Je suis nul.
Non, non, bah, on ne vous posera pas de questions sur le foot. Par contre, on va poser des questions à Alexandre, savoir comment l'actu sportive hors foot s'est déroulée ce week-end. Elle a été bien chargée et bien remplie une nouvelle fois, Alexandre.
C'est ça, c'est ça. Et donc, on commence ce journal des sports avec le rugby et les demi-finales de la Coupe Champions. Toulouse s'est imposé 38-26 et se qualifie donc pour la finale. Les Toulousains affronteront Leinster, vainqueur de Northampton 20-17. Rendez-vous donc le 25 mai à 15h45.
Alors, je coupe parce que le 25 mai, ça sera une grande journée. Il y aura la finale de Coupe d'Europe de rugby et la Coupe de France dans la foulée. On va se régaler.
Voilà. Et pour l'autre compétition européenne, c'est Clermont malheureusement qui s'est fait éliminer de justesse par les Sharks, 32-31, et Gloucester qui a remporté sa demi-finale 40-23 face à Trévise. Donc finale du challenge européen Gloucester-Sharks le 24 mai à 21h. Il y a eu la fin de l'avant-dernière journée du championnat de basket élite et Paris qui a remporté son match assez facilement contre Roanne 90-61. C'est plus compliqué pour les clubs des Hauts-de-Seine. Nanterre qui perd sur son parquet 80-87-67 face à Dijon. Et Boulogne-Levallois qui perd face aux Gravelines Dunkerque 106-76. Au classement, Monaco toujours leader devant Paris et Lyon-Villeurbanne. Nanterre 5e juste derrière Bourg-en-Bresse. Et Boulogne-Levallois toujours lanterne rouge derrière Blois et Roanne. En handball maintenant, 3 points séparent le PSG leader et Nantes. Les Parisiens l'ont remporté 38-31 sur le terrain de Dijon ce week-end. Les Nantais, eux, ont assuré la victoire 34-26 à domicile contre Chambéry. Ivry, malheureusement, s'est incliné à Nîmes 30-24 et Créteil a fait match nul contre Limoges 32 partout. À 3 journées de la fin, Ivry et Créteil sont respectivement 13e et 14e, juste devant Saran-Loiret et Dijon qui ferment la marche. Chez les femmes, le Paris 92 s'est incliné sur le terrain de Dijon 35-31. Les Parisiennes sont 4e à 3 points de la 3e place, occupées par Nantes. Brest est toujours leader et Metz 2e. En tennis, on connaît le vainqueur de l'ATP Madrid, c'est André Rublev qui s'est imposé.
Ça sent bon Roland-Garros. Hein.
Oui, franchement, je pense qu'on aura une bonne édition. Il s'est imposé en finale face à Félix Auger-Aliassime, 2-1. Après avoir éliminé Carlos Alcaraz justement en quart de finale et Taylor Fritz en demi, le numéro 7 mondial s'adjuge cette finale sans trop de difficultés. Chez les femmes, la logique a été respectée tout le tournoi puisque c'est la polonaise Iga Świątek, première mondiale, qui s'est imposée en finale contre la deuxième mondiale Arina Sabalenka. Maintenant on va à Miami, parce qu'on a eu droit à une petite surprise en Formule 1. C'est Lando Norris, auteur d'une course phénoménale, qui a gagné le Grand Prix. Le Britannique termine devant Max Verstappen 2e et Charles Leclerc 3e. Au classement des constructeurs, Red Bull reste toujours leader devant Ferrari et McLaren. Et Mercedes est loin derrière et voit ses espoirs pour le titre totalement s'envoler sans doute.
Et Verstappen largement en tête largement malgré favori, la victoire de Norris donc, dans ce Grand Prix de Miami.
Oui, c'est Lewis Hamilton justement en plus qui va basculer chez Ferrari l'année prochaine. En cyclisme, se déroulait aujourd'hui l'étape 3 du Giro d'Italie qui s'est soldée par la victoire de Tim Merlier. Si hier c'était le Slovène Pogacar qui a remporté la deuxième étape, c'est aujourd'hui le Belge qui s'est imposé juste devant l'Italien Jonathan Milan. Tadej Pogacar justement, qui est sorti dans le final et repris à 200 mètres de la ligne d'arrivée, conserve le maillot rose de leader au classement général. Et pour finir ce journal, parlons gymnastique artistique à présent. Avec 3 médailles individuelles et une place sur le podium par équipe, l'équipe de France a passé une étape sur le chemin des Jeux Olympiques. Malgré l'absence de Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer vise encore la qualification olympique après sa médaille de bronze. A noter la grosse performance de Colline de Villard qui devient la première française à remporter un troisième titre européen.
Oui, eh ben ça augure bien justement de ce qui va se passer dans quelques mois pour les Jeux Olympiques. Alors justement, elle est où cette femme, Vanessa?
On l'attend
pour Marseille, là.
Tout à fait, elle arrive donc mercredi. Elle est toujours à bord du Belém.
Oui.
Et les marins, ils vont devoir faire leurs adieux à cette belle flamme. Ouais. Elle arrivera donc mercredi dans la cité phocéenne. Et elle va suivre un parcours bien précis. Ça va commencer par Notre-Dame de la Garde et se finir au Vélodrome de Marseille.
Bah oui, ça me paraît la moindre des choses.
Elle va passer par donc plusieurs lieux mythiques de Marseille, évidemment le parc Borély, le quartier de Lettres, le palais du Pharo, le quartier de Perrier-Mazargues notamment.
Oui.
Et puis on le sait, il y aura plusieurs porteurs de la flamme, 100 au total sur Marseille. Il y aura Basile Boli, Guigui Drogba. Le dernier porteur au Vélodrome, ce sera Soprano. Mm-hmm. Mais citons tout de même aussi donc, Frédéric Bousquet, Florent Manaudou, Basile Boli, évidemment Jean-Denis Papin, Et puis un certain nombre d'autres.
Jean-Pierre Papin.
Jean-Pierre Papin.
Ah non, 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 quelle offense. Quelle offense.
Pardon, excusez-moi.
JPP. Légende, JPP. Ah ouais, quelle offense.
Non, mais non. C'est... Ah ouais. Voilà. Excusez-moi. Mmh. Et donc, Jean-Pierre Papin, pardon, je le connais bien. Ouais. Et cette flamme donc arrivera, finira au stade Vélodrome. Mmh. Le chaudron aussi a été dévoilé aujourd'hui.
Oui, oui.
Le chaudron olympique, lui aussi conçu par Mathieu Lehaneur, qui a conçu la torche olympique, mmh, et également la vasque. Et ce chaudron, il sera allumé 65 fois, soit autant de villes-étapes qu'elle traversera.
Et après, Vanessa, bah, elle va suivre le déroulement de la flamme un peu partout.
Donc du 8 mai jusqu'au 26 juillet, dans toutes les villes de France et aussi dans les dom-tom.
Avec l'arrivée sur Paris les 14 et 15 juillet, on y sera. Et ensuite, ça repartira sur l'île de France. On y sera aussi avant de revenir donc pour l'ouverture le 26 juillet. Ces jeux, vous allez les suivre, c'est bien ?
Alors, je les... bah, oui, évidemment, c'est un événement qui est... Enfin, pour moi, c'est l'événement sportif
la planète.
Le plus important.
Ouais, ouais, ouais. Hein, une fois tous les 100 ans.
Voilà.
Ouais. Parce que MMA, bon, c'est pas encore un sport olympique. Vous espérez un jour qu'il le devienne ?
Alors, moi, j'espère qu'il le deviendra. Après, j'ai attendu, comme on disait, 25 ans avant qu'il soit reconnu officiellement en France. J'avoue que j'y croyais plus. Hein. Donc, il n'y a rien qui... Bah, en fait, ça serait assez logique qu'il redevienne un sport olympique, puisque... Oui. On a parlé du pancrace tout à l'heure. Le pancrace, c'était le MMA, en fait. Et c'était l'un des sports de combat roi. L'un des sports rois des Jeux Olympiques.
Et puis, on parlait de la lutte, hein, qui est un sport ancestral et qui est vraiment bien lié à l'histoire olympique.
Et il y avait déjà le pancrace en même temps que la lutte, qui mêlait la lutte et la boxe. C'était le MMA. Ça existait déjà dans les JO de l'Antiquité. Donc, ça serait logique qu'il retrouve sa place.
Alors, ce sera donc le JO de la parité. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font du MMA? Beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes.
Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a de plus en plus.
Oui.
Il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de filles qui viennent à la salle. On a notamment Ornella Pereira, qui est une ancienne judokate, championne de France, vice-championne du monde par équipe de judo, qui s'est reconvertie en MMA et qui a notamment remporté... le championnat de France d'une des trois fédés en fer, en grappling fight, il n'y a pas si longtemps, à la Free Fight Academy. Voilà.
Mmh. Est-ce qu'il y a des degrés, des ceintures, comme dans certains sports d'arts martiaux ?
Alors oui, c'est la fédé l'a mis en place là, depuis la légalisation. Après, il n'y a pas cette tradition qu'il y a avec le judo, mais pour le MMA, c'est grade, on appelle ça des grades. Mmh. Ça sert surtout à sélectionner ceux qui sont aptes à pratiquer la compétition. C'est-à-dire que, par exemple, la Fédé a mis en place un grade vert qui est le grade nécessaire pour avoir le droit de combattre en compétition de MMA.
Et si on veut faire de la compétition, on prend quand même des précautions. Il y a un suivi médical très approprié.
Ah oui, il y a un suivi médical. Il n'y a aucun sport où on a un suivi médical aussi poussé que le nôtre. C'est-à-dire que même en compétition amateur... Il vous faut un certificat médical, évidemment, d'aptitude au sport, au MMA en compétition. On vous demande un fond d'œil pour vérifier qu'il n'y a pas de problème ophtalmo, un électrocardiogramme, des analyses de sang. Donc non, c'est vraiment très très poussé au niveau du suivi médical.
Alors moi je le sais, mais on va quand même rappeler la durée des matchs, parce que le cardio il monte très vite. Hein.
Alors là, les règles amateurs, c'est normalement 3 fois 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes.
Donc là,
et en règle professionnelle, c'est 3 fois 5 minutes. Mm-hmm. Et pour un combat de championnat, ça peut être 5 fois 5 minutes.
Oui, donc naturellement, grande discipline de vie obligatoire.
Il faut,
vous parliez du poids, on fait attention à ce qu'on mange, on mène une vraie vie de sportif de haut niveau.
Un entraînement très soutenu on travaille beaucoup le cardio, évidemment, sans cardio, on peut pas tenir le rythme.
Donc il y a des activités complémentaires, physiques, course à pied,
un peu de
vélo.
Il y a forcément des activités complémentaires, après... c'est vraiment un sport de combat où toutes les qualités physiques vont se mêler. Donc, il faut de l'explosivité, il faut de l'endurance, il faut de la résistance. Donc, on va travailler différentes filières énergétiques.
Et Mathieu, vous êtes donc aussi à la tête d'une équipe qui gère, qui a des coachs hein, qui vivent aussi de ce métier. Ils sont combien dans vos académies ?
Alors on a
les professeurs de.
On a pour le MMA, on a 6 coachs différents en m'incluant dedans. Et puis on a des sections dans d'autres sports de combat.
Donc tous payés.
Alors, c'est essentiellement des bénévoles, c'est en train de se professionnaliser.
Oui, parce que c'est important, ça peut être pourvoyeur d'emploi pour des jeunes aussi.
Alors, ça peut être pourvoyeur d'emploi, par contre, il ne faut pas non plus se faire d'illusions.
Oui.
Je ne connais personne qui, actuellement, à part quelques rares, quelques très, très, très rares grands entraîneurs, personne ne vit que de l'entraînement du MMA. C'est souvent un métier qu'on fait en plus d'une autre activité professionnelle, pour le moment en tout cas.
D'accord, ouais, c'est une question que j'allais poser aussi. Est-ce que le sportif lui-même peut vivre de ce sport ? Alors, c'est-à-dire les grands champions, les icônes dont on nous parle régulièrement Benoît et puis Souleymane, est-ce qu'ils en vivent bien ?
Alors oui, en fait c'est toujours un peu la même chose. Il y a quelques... Il y a quelques grands champions qui vivent très 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 bien, certains qui sont millionnaires, mais il y en a aussi beaucoup qui n'en vivent pas ou qui ont un autre boulot à côté. Hein. Donc,
oui,
le MMA est déjà beaucoup mieux payé qu'à mon époque. C'est l'un des sports de combat qui rapporte le plus.
Oui, puis il y a des télés qui montrent maintenant ce sport. Donc il y a des sponsors qui viennent. Donc tout ça, ça apporte de l'argent, quoi.
Mais néanmoins, une grande majorité des combattants professionnels ne peuvent pas vivre exclusivement de leur sport.
Mm-hmm. Et vous, donc vos salles, il y a de la concurrence, fatalement. Hein.
Oui, forcément.
Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Ou est-ce que c'est une bonne chose ? Ou est-ce qu'il y en a qui vont rester sur le carreau tôt ou tard ?
Alors, je pense vraiment, pour l'instant, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde.
Parce qu'on en connaît d'autres qui sont venus aussi à ce micro, hein, donc ont développé leur salle aussi.
Oui.
L'entente est bonne entre vous ?
L'entente
est
bonne.
Il y a une petite guerre, une petite concurrence.
Bon, après, il y a une concurrence, mais c'est une saine concurrence. C'est-à-dire que c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que. S'il n'y avait pas cette combat, c'est ça qui fait le sport aussi, la concurrence entre les académies, entre les clubs, c'est ça qui nous permet de nous retrouver dans les compétitions. Il faut bien qu'il y ait d'autres clubs. Si on vient et qu'il n'y a qu'un seul club, il ne peut pas y avoir de compétition, quoi.
Oui. Alors je voudrais qu'on insiste quand même sur un fait important, ce sont les valeurs de ce sport. Parce que ça, c'est typique à tous les sports de combat, il y a d'énormes valeurs.
Alors, il y a des valeurs, mais ça, je le dis assez souvent. Oui. Je répondais à une autre interview il n'y a pas si longtemps. Mmh. Les valeurs, elles dépendent beaucoup de l'entraîneur en réalité. C'est-à-dire que une clé de bras, c'est une clé de bras. Je peux vous la montrer avec des bonnes valeurs et avec des mauvaises.
Oui. Oui, mais enfin, vous auriez des voyous qui viendraient dans la salle mettre le bazar. L'affaire, elle est réglée, quoi. Ils s'en vont.
Après, pour être très très franc, dans notre sport et même à très très haut niveau, il y a des grands champions qui sont pas des modèles. Hein.
Oui. Et ça les a pas canalisés.
Ça les canalise dans une certaine mesure, mais il y a un petit peu les mêmes. On va retrouver un peu les mêmes profils qu'on avait en boxe. Si tu prends un Mike Tyson, ça n'a pas été un modèle toute sa vie. C'est une référence dans le sport.
Oui.
Mais c'est pas une référence au niveau conduite sociale. On a eu Conor McGregor pour le MMA, qui a beaucoup contribué à populariser ce sport, qui n'est pas forcément non plus un modèle de vertu sur tous les plans. Donc, il n'y a pas de généralité. Et il y a des grands champions qui sont de vrais modèles inspirants. On a par exemple Georges Saint-Pierre pour le MMA, qui est une des plus grandes figures de tous les temps de notre sport. Et là, c'est le champion parfait, comme on aimerait en avoir tout le temps.
Tiens, je voudrais la réaction d'Alexandre. MMA, c'est un sport qui te passionne, hein ?
Alors, j'ai jamais été féru particulièrement des sports de combat, mais de ceux que j'aime le plus, il y a la MMA.
Bah oui.
Et d'ailleurs, en plus, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité à l'ARES. C'était vraiment bien, et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte de l'engouement populaire qu'il y avait autour de ce sport. Et pour rebondir sur ce que vous disiez en première partie, c'est que je pense que ce qui fait que le MMA est en train de prendre une grosse dimension de mon point de vue, c'est que justement il y a des grandes stars qui commencent à naître, qui prennent la parole dans les médias, avec vraiment des personnalités qui sont vraiment spécifiques, quoi, en France. Et aussi le côté un peu chaud américain, un peu l'américanisation de ce sport qui, qui donne ce côté-là comparé à d'autres sports de combat. Et puis aussi, on l'a dit tout à l'heure, les télés qui viennent forcément populariser le sport.
Ouais, c'est un tout, fatalement.
Voilà. Mmh. Donc je pense que ouais, le MMA, dans les prochaines années, ça va être top 5, je pense, des disciplines en France.
Alors, ouais. Souleymane, tu voudrais nous donner quelques infos quand même. Il s'est passé quoi en ce mois, MMA?
Alors, en termes
il y a des combats de prévus, il y a des combats importants
MMA,
prévus.
Ouais. On a l'UFC 301 oui. qui est en bonne voie, qui est prévu, qui risque d'arriver. J'ai pas la date exacte, mais potentiellement 2 semaines, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais.
Mais la grosse actualité qu'on a pu avoir ces derniers jours, c'est le combattant Gomis qui a effectué une, on va dire, discipline nouvelle du MMA qui s'appelle le cutting.
Ah bon ?
Donc, qui est un
une
principe...
autre discipline.
ouais. C'est un peu une discipline dans une discipline. Pourquoi ? Parce que le cutting, c'est, on va dire, en me corrigeant, n'hésitez pas, une diète extrême où le but va être de perdre un certain nombre de kilos afin de pouvoir rentrer dans une catégorie de combat. Et donc, ce combattant-là, Gomis, l'a réalisé. Et lorsqu'il est arrivé le jour de la pesée, on l'a vu très tremblotant, très faible. Il avait littéralement une allure de zombie.
Pourquoi c'était trop rapide, la perte de poids ?
Alors, c'est
parce
justement...
Que, bon, c'est l'essence de ce sport. Hein,
du cutting,
ouais.
C'est le danger qu'elle implique pour la simple et bonne raison qu'on est sur des pertes de poids énormes et très rapides. Pour certains combattants, ça va être 10 kilos. Pour certains combattants, ça va être 15.
En combien de temps ?
Des fois, en moins d'un mois.
Ouais.
Et le principe, c'est de récupérer certains de ces kilos quelques jours avant le combat.
Mmh.
Du coup, maintenant que l'information a été donnée, moi j'ai une question à poser.
Ouais, Mathieu, c'est une bonne chose ou pas ça ?
À notre invité ici, pour ou contre le cutting ?
En fait, le cutting n'est pas une bonne chose parce que c'est mauvais pour la santé. Mais par contre, si tu me demandes si je suis pour ou contre, je suis contre. Mais néanmoins, tous mes combattants professionnels et même amateurs cut. C'est-à-dire que c'est en particulier vrai pour les combattants professionnels. En gros, si tu ne fais pas ton cutting, tu sais que l'adversaire va le faire. Ça veut dire que...
Ah oui, donc tu es obligé de le faire.
Donc en fait, si je te donne une moyenne, par exemple, nous, il y a une catégorie qui s'appelle les lightweight. C'est en gros moins de 70 kilos. Et tu as une catégorie welterweight qui est en gros 77 kilos. Donc tu as 7 kilos qui séparent, 7 kilos en gros, qui séparent une catégorie de poids de l'autre. Beaucoup de combattants qui combattent en lightweight, moins de 70 kilos, le jour du combat en font plutôt 75 ou 77.
Mmh.
Et certains même encore plus, peut-être 80. C'est-à-dire que la pratique du... Alors tu disais c'est 15 kilos en un mois, mais c'est surtout... ça peut surtout être 7 kilos voire 10 kilos en 2 jours.
Ouf.
Ouais. Parce que il y a effectivement un régime un petit peu qu'on va commencer avant pour éliminer du gras, mais le cutting c'est surtout l'art de la déshydratation. En fait le problème, alors il y a certaines organisations qui commencent à réglementer ça. Qui surveille la réhydratation et qui exige qu'il n'y ait pas une trop grande différence de poids entre la pesée et le jour du combat, qu'il n'y ait pas une récupération de poids trop importante. Le souci, c'est que d'abord, c'est difficile à faire, c'est très coûteux sur le plan médical, donc toutes les organisations ne peuvent pas mettre ça en place encore, en tout cas pour l'instant. Et surtout, les très grosses organisations, beaucoup de très grosses organisations comme l'UFC ne font pas ça. C'est-à-dire que la référence actuellement pour le MMA, la plus grosse orga de toutes, c'est l'UFC, qui n'a pas de règles contraignantes pour le cutting, à ma connaissance. Et en gros, le cutting, ça consiste à se déshydrater. C'est-à-dire que un combattant qui fait, je te donne une moyenne, qui pèse 77 kilos, ne va jamais combattre à 77 kilos dans la catégorie des 77 kilos, il va combattre dans celle du dessous. Mmh. Donc il va, et comme pour les combats professionnels, la pesée est un jour avant le combat, et comme c'est même un jour et demi, parce que la pesée est souvent, par exemple, le vendredi matin, alors que le combat a lieu le samedi soir, il va avoir plus d'une journée pour récupérer, donc il va arriver à la pesée dans un état très dégradé, parce qu'il va parfois avoir perdu 7, 8, des fois 10 kilos d'eau. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vas voir arriver le gars avec le visage complètement creusé, qui va ressembler un peu à un zombie, parce qu'il a les orbites creusées, parce qu'il a, il a les joues creusées, parce qu'il a plus d'eau. Enfin, évidemment, il en a encore, mais il a perdu, par exemple, 7 ou 8 kilos d'eau pour pouvoir se peser en moins de 70 kilos. Ça, c'est le vendredi matin. Et quand il va arriver le samedi soir pour le combat, il fera 77.
D'accord. Ouais.
Et alors, évidemment, c'est mauvais pour la santé, mais les gars se font accompagner par des diététiciens pour savoir quoi boire, quoi manger, quand, comment récupérer progressivement pour assimiler tous les nutriments. C'est devenu une science. Il y a des diététiciens qui sont spécialisés dans ces processus-là. Et le problème, c'est que si tu ne le fais pas, tu viens, supposons que toi, tu fais 70 kilos dans la vie de tous les jours, donc tu vas combattre en lightweight, tu vas aller te peser à 70 kilos parce que c'est ton poids. Et puis le jour du combat, tu vas tomber contre un gars qui fera 7 ou 8 kilos de plus que toi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, le combat est déséquilibré, donc tu n'as pas tellement d'autre choix que de le faire. Mm-hmm.
Est-ce que les résultats sont bons, justement, au Free Fight Academy?
Est-ce dans que votre club, nos résultats en compétition, on a des bons
niveau,
résultats. Alors on s'intéresse vraiment à tous les niveaux. La Free Fight Academy, c'est avant tout un club formateur. C'est-à-dire que notre vocation privilégiée, c'est pas comme d'autres clubs de recruter des combattants qui ont été formés ailleurs dans tous les coins du monde et qui représentent le club à un moment donné. Ça peut nous arriver qu'un combattant déjà formé arrive d'ailleurs effectivement, mais le fondement du club, c'est former ses propres compétiteurs. Donc on a un gros vivier de compétiteurs amateurs. On en a parlé tout à l'heure à la MMA League de Paris. Oui. On a fait de très bons résultats, plusieurs podiums. On était au championnat de France de Pancrace, on a fait plusieurs podiums. On était au championnat de France de Grappling Fight. En fait, c'est les trois fédés qui font du MMA sous différentes appellations. On fait à chaque fois plusieurs podiums également. C'est un peu ça, la dynamique. On a notamment aussi, alors ça c'était pour les adultes, mais on a aussi des enfants qui font, ou des ados qui font des résultats en compétition. Et puis, on a une équipe de combattants professionnels qui combattent à très haut niveau. Je m'occupe du matchmaking, je suis directeur sportif de l'organisation Hexagone MMA, qui est une des deux plus grosses organisations françaises actuelles, qui est une organisation professionnelle, et dont certains compétiteurs de la Free Fight Academy combattent dans cette organisation. Et un petit peu, notre logique à la Free Fight Academy, c'est de prendre quelqu'un qui n'a jamais rien fait.
D'accord, et de lui permettre
de le former, lui faire faire ses premières armes en compétition amateur et l'amener à poursuivre une carrière en professionnel.
Est-ce que vous organisez beaucoup de réunions?
Alors oui, donc Hexagone MMA, c'est à peu près un événement par mois en France.
Ah, c'est bien, ouais. Donc il y a des belles infrastructures ici.
Donc ça c'était quelque chose qui n'existait pas à l'époque où je combattais moi, évidemment, puisque le MMA en tant que tel n'était pas autorisé en France. Et là, la légalisation a permis ça. Donc on sera par exemple pour Hexagone le 24 mai à Reims, le 2 juin au Zénith de Paris et le 8 juin à Toulouse.
On va envoyer Benoît vous voir, d'accord ?
Pourquoi pas ?
Voilà. Allez, la deuxième pause musicale, toute première fois à Jeanne Masse. Après ça sera le point foot et puis on finira après cette émission consacrée en grosse partie ce soir au MMA. Allez, Jeanne Masse pour l'instant.
Secret.
Voilà, cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis plusieurs mois et puis depuis deux ans. Prenez plaisir, allez les réécouter. Vous aurez tous nos invités, toutes les interviews qu'on vous avait donc présentées depuis janvier 2022. Bonsoir Stéphane, en studio.
Bonsoir Philippe,
ça
bonsoir,
va bien ?
Ça va très, ouais, bien, très bien.
Alors, si je te dis Paris Saint-Germain en ballotage favorable et Marseille en ballotage légèrement défavorable, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, après les matchs de Ligue des Champions, en ballotage favorable,
1-0 battu à Dortmund,
je pense
que pour
les deux
c'est
équipes
pas...
c'est du 50-50.
Oui, oui, voilà. D'accord.
Dans les faits, après, oui, dans la théorie, effectivement, ce serait plutôt voilà, avantage Paris Saint-Germain et, oui, un peu moins de chance pour l'OM,
revenir...
c'est du 50-50. Ouais.
On va revenir donc d'abord sur ces demi-finales de Ligue des Champions. Dortmund-Paris, donc 1-0 pour Dortmund. Bon, c'est jouable. Paris aurait pu faire match nul comme ils auraient pu être battus 2-0.
Ouais. Oui, non, ils auraient surtout dû faire match nul. C'était
surtout sur la deuxième mi-temps.
La logique, quoi, du match. Je pense que la logique du match, même si on regarde tous les chiffres et tout, le résultat, ça aurait dû être match nul. Maintenant, il n'y a pas eu match nul. Puis bon, si le foot, c'était juste ce que ça aurait dû être, ça serait,
oui,
pas,
oui,
très, très marrant. Donc,
bah, c'est pour ça qu'on commente.
Fait,
hein.
Qui a fait un super match, qui a fait un super match Dortmund, ce qui a été le contraire de.
On pouvait s'y attendre quand même à Dortmund. À Dortmund, on pouvait s'y attendre.
On sait que c'est une équipe qui s'attendre à une attaque aussi médiocre quand même que, ouais, le Paris Saint-Germain. Quand t'as trois des meilleurs attaquants du monde, tu peux quand même être un peu déçu de entre les buts ratés, le manque d'investissement,
les tirs sur le poteau.
Ouais, les tirs sur le poteau. Bon, ça encore à la limite, c'est ce qu'ils ont fait de mieux pratiquement. En l'occurrence, Kylian Mbappé, puis l'autre c'est Hakimi. Mais bon, voilà. Entre ça, c'est surtout l'investissement. Quoi. C'est tombé un. Hein, où Barcola est flamboyant ces dernières semaines. On parle de lui en équipe de, ouais, France et tout. Il passe quasiment complètement au travers du match.
Dembélé, souvent des problèmes dans la finition,
ouais,
malheureusement.
Ouais, un match un peu médiocre, ouais, un peu laborieux, je vais dire, de Dembélé, qui a été quand même le moins mauvais, peut-être, des joueurs offensifs. Et puis Kylian Mbappé, qui passe complètement à travers.
Alors moi, je dirais, fait quelques matchs, hein, européens, où
ça
il passe à travers
matchs,
quand même. Hein.
Je dirais simplement que si on veut parler, quand on regarde les matchs à élimination directe du Paris Saint-Germain jusqu'à maintenant, on va dire une première mi-temps 45 minutes complètement ratée contre la Real Sociedad. Puis après, ils se reprennent bien, peut-être parce que c'est aussi la Real Sociedad, donc ils se reprennent bien. Un match aller raté, bon, surtout encore les 45 premières minutes, mais on va dire un match aller raté contre le Barça, ouais, voilà, et ils se reprennent bien. Alors peut-être on peut espérer que, et simplement, moi j'invite Luis Enrique quand même à essayer de trouver un match amical ou à faire une mi-temps ou quelque chose avant contre une autre équipe, si jamais le Paris Saint-Germain a le bonheur d'aller en finale, parce que là il n'y aura qu'un match, tu ne pourras pas te rater et attendre le deuxième.
Alors justement, le deuxième match, ça sera Bayern de Munich, Real Madrid, deux partout à l'aller, là aussi, ballotage favorable pour Real en vue du match retour.
Voilà, non, moi je dis encore pareil que pour les équipes, c'est une usage. Je pense que comme a dit Thomas Tuchel après le match à Munich, il a dit que ce sera du 50-50 au match retour. Maintenant qu'il n'y a plus ces buts à l'extérieur qui comptent 2 points, moi j'ai un peu de doute quand même sur l'impact, quoi, à ce niveau-là de la compétition, que le fait de jouer à domicile puisse renverser la situation. Alors, pareil sur le...
Ça dépend. Hein,
peut-être que...
Il y a des équipes qui sont différentes quand même. Dortmund, c'est une toute autre équipe à l'extérieur. Hein.
Oui, mais après, est-ce que c'est uniquement le public? Je ne sais pas. Bah, le Paris Saint-Germain aussi. Hein. Oui. Le Paris Saint-Germain, à domicile, ils sont en Ligue des Champions.
Sauf contre le Barça.
Ils ont, fait quand même des très belles choses. Et donc aussi, maintenant...
Et on le voit aussi pour Marseille, hein, qui loupe ses matchs à l'extérieur et qui arrive à se transcender à domicile,
voilà,
quand même.
Exactement. Hein, ouais. Exactement, mais sauf que si on veut parler de Marseille,
oui,
l'Atalanta,
bah on en vient, là, un partout contre Bergame.
Alors là, c'est pas... Ouais. Absolument pas impressionné.
Alors là, c'est pareil, on parlait du manque d'efficacité des Parisiens, pareil pour Marseille, quoi.
Bah, pareil pour Marseille. Hein,
c'est un match que Marseille doit gagner, quoi.
Bah, exactement, ils auraient dû gagner quand on voit le face-à-face de d'Aubameyang. Et normalement, il rate jamais ce genre de choses, donc c'est sûr qu'il risque de... Mais moi, je suis assez... je pense qu'on peut être confiant pour les deux équipes, c'est du 50-50, déjà, bon... Total pour peut-être l'OM, parce qu'ils jouent à l'extérieur. Mais bon, on nous parlait de ce... Je ne vais pas remettre encore le débat ici, mais on nous parle sans cesse de la Ligue 1, le parent pauvre du football européen. Mais bon, c'était le sixième de la Serie A en face, hein, finaliste de la Coupe d'Italie. Hein, puis,
ouais,
moi,
puis
franchement,
il peut y avoir un après prolongation, et puis séance de tir au but, puis voilà.
Voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Ouais, exactement.
En tout cas, ça ferait aussi bien que 2004. Hein, c'était la dernière année où les deux équipes françaises étaient parvenues donc, en finale. Monaco en Ligue des Champions, et puis Marseille, donc en. C'était la Coupe UEFA à l'époque.
Ouais, et j'espère voilà. pas que ça fera la même.
Moi, oui, ça, avec des résultats, on avait perdu les deux finales. Tu veux dire un petit mot, Alexandre
Oui.
Sur
oui.
ces bon, après, demi-finales
sur les demi-finales, moi, je pense que. Moi, ce que j'ai dit depuis le départ, je pense que Paris va se qualifier.
Oui.
Même s'ils ont, ils sont passés à côté de leur match par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mmh. Mercredi, ça c'est sûr, mais quand, comme a dit Stéphane, quand on analyse vraiment le match, c'est du 50-50, ça aurait pu tourner en faveur de Paris comme en faveur de Dortmund. Le match retour, c'est au Parc des Princes, donc il peut tout se passer. Et moi, je mets toujours une pièce sur la qualification de Paris, ça c'est sûr.
Donc c'est demain le retour, et puis c'est mercredi demain, pour donc le retour entre le Real et le Bayern, et puis jeudi, donc juste après la flamme, donc le match entre retour entre Bergame et Marseille. En Ligue Europa Conférence, eh bien, on a vu l'Olympiakos qui a battu l'Aston Villa 4-2, et puis Fiorentina qui a battu Bruges 3-2. Donc, grosse surprise quand même, hein, cette défaite d'Aston Villa.
Ouais, pas particulièrement pour moi, parce que.
Devant les Grecs.
Moi, j'en sens pas les équipes, à part les grosses équipes, vraiment le top 3 de la première ligue, les autres, je les mets pas tout en haut de la pyramide, donc c'est pas forcément. Puis on l'a vu qu'ils ont été bousculés par Lille, qui aurait dû aussi, pareil, marquer et ne pas aller à la séance de tir au but. Mais je pense quand même qu'ils ont de quoi faire quand même à renverser la tendance.
Ah, ils peuvent quand même gagner chez les Grecs? Aston Villa ?
Ouais, je pense. Ouais.
Fiorentina, Bruges, ça sera ouvert. Par contre, on n'a pas parlé de l'équipe qui sera peut-être favorite sur la Ligue Europa, c'est Leverkusen, qui est allé gagner donc, à l'AS Roma 2-0.
Dit,
cette équipe de Leverkusen, c'est vraiment son année. Hein. C'est vrai, hein. champion d'Allemagne, et puis peut-être une Ligue Europa.
Et surtout, champion d'Allemagne, champion d'Allemagne, parce que champion d'Allemagne, champion d'Allemagne, c'est une chose.
Oui.
L'année dernière, c'est Dortmund, hein, qui avait failli être champion d'Allemagne, et qui devait gagner, et qui a fait un match nul, et donc finalement, je crois que c'est la différence de but que le Bayern passe. Mais là, c'est champion d'Allemagne à 5 journées de la fin, avec 16 points d'avance
Même pas, 3 journées, ils sont comme nous, les Allemands.
Ouais.
Ils en sont à 3 journées comme nous.
Non, mais je veux dire, ils ont été champions à 5 journées de la fin. Et 4 ou 5, je ne sais plus, mais avec 16 points d'avance sur le Bayern Munich. Donc, c'est une saison exceptionnelle, sans jamais avoir perdu. Puis, tu as l'impression qu'ils sont accompagnés d'un espèce de karma. Je veux dire, faudra être super fort pour arriver à les battre. Arriver à les battre en finale, quand même.
Allez, on en vient donc au championnat de Ligue 1. C'est la 32e journée, il reste 2 journées. Alors, ce soir, il y a donc Lille face à Lyon à partir de 21h. Et puis Nice, Paris Saint-Germain et Reims, Marseille seront joués donc le 15 mai pour permettre à Paris et à Marseille de bien se préparer donc en vue de ces demi-finales. Retour. Par contre, ça se décante un petit peu pour certaines positions dans ce championnat de France. Hein. Toulouse a été battu par Montpellier 2-1. Victoire de Lens devant Lorient 2-0. Le Havre s'est probablement sauvé en battant Strasbourg donc 3-1. Monaco a définitivement condamné Clermont 4-1. Victoire de Rennes 3-2 à Metz. Ça va être peut-être un petit peu compliqué pour les Messins d'éviter les barrages. Brest-Lens 0-0. Stéphane ?
Je dirais que ce que tu as dit là, Philippe, c'est un peu ce qu'on entend effectivement sur tous les
Il reste deux journées.
Mais moi, je suis pas aussi catégorique que ça.
C'est-à-dire
parce par exemple, le Havre, je pense que Metz est tout à fait capable d'aller reprendre le Havre. Par exemple, quoi. Il n'y en a pas 10 des exemples. Hein. C'est peut-être le seul, en fait, quoi. Même Lorient. Je ne me rappelle plus exactement les.
Il y a une lutte entre Brest et Lille aussi pour la troisième place.
Pour la troisième
place. On va attendre le match de ce soir.
On va déjà voir ce soir. Mais je pense qu'une équipe comme Metz, par exemple. Je sais pas Strasbourg, je sais plus le calendrier, leur prochain déplacement, je sais pas où ils vont.
On n'a pas vérifié, il va vérifier.
Ouais, je me demande, c'est pas Strasbourg qui ou en tout cas une équipe. Non, ils finissent contre le PSG, je sais, chez eux.
Oui, oui. Ouais, oui. En tout cas, donc le PSG 70 points, deuxième Monaco 61, ça c'est fait. Monaco
se déplace à Strasbourg.
Voilà, il se déplace à Strasbourg, qui est comme l'a dit lui-même Patrick Vieira. Ouais,
ça y est,
c'est
en vacances.
C'est en vacances,
voilà. C'est en vacances, ouais.
Donc bon, c'est vrai que c'est un peu un derby, donc ça de l'Est, donc ça va être un peu, ça va être joué, mais bon, là le carton jaune, je pense, va être, j'espère qu'ils vont être assez intelligents quand même. Ouais, normalement, ils peuvent pas faire autrement que de l'enlever, le carton, l'expulsion.
Oui,
de...
c'est la moindre des choses, hein, parce que
de Mikotadze. Mais j'avais déjà été très surpris que Lesmenou n'avait pas eu son carton enlevé après Lyon-Brest. J'avais été vraiment très surpris. Alors, on sait jamais, mais bon, c'est vrai que là maintenant que l'arbitre a un comportement absolument incompréhensible, l'arbitre du match. Donc maintenant, en tout cas, qu'il a fait ça, j'espère que, parce que sans Mikotadze, c'est sûr, c'est fini.
Oui, bien sûr.
Mais avec Mikotadze,
il gagne.
Regarde, ça ne dérange pas de me donner le classement, je ne l'ai pas exactement.
Oui,
c'est 32 points.
Je vais te le donner. Hein.
C'est 32 points dans le Havre, non?
De quoi? Non, mais je vais te le donner. Hein. Le Havre, ils ont 32 points. 30, oui, oui.
Voilà.
Justement, Paris
et
Saint-Germain.
Metz 29.
Ouais. Paris Saint-Germain, non, Metz 29, oui, 3 points. Ça fait un match d'écart. Quoi.
C'est-à-dire que si jamais ils vont gagner à Strasbourg, ce que je trouve tout à fait possible qu'ils gagnent à Strasbourg le prochain match, et que le Havre perd à domicile, ils se retrouvent.
À égalité, quoi, c'est ça. Alors, Paris Saint-Germain.
Voilà, le Havre va à Nice, c'est bien ce que je pensais, quoi. Et Nice, ça va être dur de gagner pour eux.
Donc Paris Saint-Germain en tête avec 70 points. Monaco, deuxième, 61. C'est fait pour Monaco. Le troisième, donc, il y a match entre Brest, 57, et Lille, quatrième, 55. On va attendre le résultat de ce soir. Nice devrait se conforter à la cinquième place avec 51 points. Et par contre, il y a match aussi, sixième, Lens, 49. Et septième, Rennes. Il y a match pour la septième place avec Rennes, septième, 45 points. Et huitième, Marseille et Lyon, 44 points. Donc là, il y a match aussi encore. Hein. Voilà. Et puis en bas de classement.
On va savoir ce soir si Lille, si Lyon s'impose à Lille, éventuellement, ça, Lyon revient dans la course parce qu'ils reviennent.
Ça me paraît difficile.
Maintenant, à Lyon, on peut s'attendre à tout. Hein.
Oui. Alors, le 14e, donc, c'est Nantes, 33 points. Ils ne sont pas encore complètement tirés d'affaire, mais presque. Et tu le disais, donc, 15e, Le Havre, 32 points. 16e, Metz, 29 points. Donc, pour toi, c'est encore possible.
Hein, qu'il y ait un pour moi, même Nantes, 33 points. S'ils perdent leur match,
les deux derniers matchs.
Si Metz gagne à Strasbourg et que Nantes, ils jouent à domicile et ils ont perdu tous leurs matchs à domicile quasiment, je sais pas s'ils ont pris comme point depuis qu'il y a Comboiré à domicile, Nantes, mais pas grand chose. Ouais. Donc s'ils perdent et qu'on se retrouve à avoir la dernière journée, moi je vois tout à fait le Metz capable de battre le Paris Saint-Germain sur la dernière journée, un Paris Saint-Germain, surtout si le PSG va en finale, aura la finale de la Coupe de France à jouer, aura encore ces deux matchs qu'ils vont en finale, et je pense que Metz peut tout à fait battre Paris.
Alors le 17e c'est Lorient, ça ils sont pratiquement condamnés avec 26 points, et 18e donc le Clermont, donc 25 points, je crois qu'on l'a dit depuis un moment, les carottes sont cuites pour Clermont. Allez, 36e journée de Ligue 2, alors là il y a aussi encore de la bataille. Auxerre a battu le Paris FC 2-0, Guingamp, Saint-Etienne, Machul de partout, victoire de Angers devant Pau 2-1, Rodez a été battu par Annecy 3-1, Stéphane. Ouais. Ça, c'est quand même assez surprenant. Et puis, Caen qui bat Laval 1-0. 3, Valenciennes, match arrêté à la 89e minute. Mais je crois que ça scelle définitivement donc, le sort de 3, parce que le match sera vraisemblablement donné perdu
bien
sur
sûr,
tapis vert.
Ouais.
Donc, 3-0. Donc, Auxerre, 64 points, c'est bon. Eux, ils vont remonter. Donc, Auxerre en tête, donc il va remonter. Deuxième, Angers et Saint-Etienne avec 64 points, donc ça joue au golavrage entre les deux équipes. 4e Rodez 56, 5e le Paris FC 55 et 6e Caen 54. Donc là il y a match pour le play-off. Hein.
Ouais, il y a match pour le play-off et puis bien sûr pour la montée et Saint-Etienne qui peuvent vraiment s'en.
Oui. Auxerre, c'est combien? Ils sont champions. Hein,
ils ont à la différence de but, c'est-à-dire que s'ils perdent leurs deux matchs, ils peuvent se faire remonter, mais ils ont une différence de but largement en leur faveur. Il faudrait vraiment qu'ils perdent leurs deux matchs 3 ou 4-0 et que derrière les deux équipes pour pas monter quoi, les deux équipes en même temps gagnent leur match. 3 ou 4-0, donc ça semble très, 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 très improbable. Quoi.
Et le Paris FC?
Et le Paris FC, le Paris
pour
FC,
l'instant,
je
le Paris FC,
ils peuvent sont... encore, ouais, bah, ils sont cinquième, là, le Paris FC.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils jouent le play-off, mais à Rodez.
Oui, pour l'instant. Sauf que samedi prochain, vendredi prochain, il y a quand même Saint-Etienne-Rodez. Quoi, hein.
Oui, c'est ça.
Donc, faudra que Rodez fasse un résultat à Saint-Etienne. Mais bon, pour pas mal connaître l'entraîneur de Rodez...
Oui, justement, c'est pour ça que je te parle de ça.
Je sais que lui, il préfère jouer Saint-Étienne que Annecy, quoi. Il a toujours dit, moi, je préfère que mes joueurs, ils jouent des gros clubs, des grosses équipes plutôt que des petits clubs. Maintenant, c'est surtout valable pour les matchs à domicile, hein. Je crois qu'au match aller, ils ont battu Saint-Etienne au match aller, ils ont battu Auxerre, ils ont battu le Paris FC, ils ont fait des bons résultats chez eux, mais à l'extérieur, ça va être plus compliqué.
Ouais. Une belle lutte entre Saint-Etienne et puis Angers pour la deuxième place. Quant à Auxerre, ils sont champions de Ligue 2 avec 70 points. Voilà. Voilà.
Et ce qui est fou, c'est que Saint-Etienne menait 2-0
oui.
à Guingamp.
Ah oui, bah oui.
Et
bah oui.
avait fait à ce moment-là, je pense, un grand pas vers la première Ligue 1, et puis ils se sont fait remonter.
Alors, une équipe qui est un petit peu en vacances, c'est le Red Star. Ils vont remonter. 32e journée, battu à domicile par Versailles 2-1. Par contre, le fait important, c'est Martigues qui bat Marignane-Gignac 2-1 et qui prend une belle option pour la montée en Ligue 2, hein, puisque dans le même temps, Niort a été battu à Rouen 4-2. On sait que seulement deux équipes donc, joueront la saison ouais. prochaine en Ligue 2. Donc le Red Star promet 62, deuxième Martigues 56, troisième Niort 52. Et donc Versailles est en milieu de tableau 46, 9e.
Ouais. Tout à fait. Donc là, avec deux, il reste deux matchs, c'est ça ?
Là, c'est pareil. Même, ouais, il reste deux journées, même, ouais, même topo que la Ligue 1.
C'est sûrement cuit pour Niort, malheureusement, malheureusement pour eux, quoi. Et puis voilà, bon, on aura vu.
Alors, un petit mot quand même sur les féminines aussi. C'est un week-end de Coupe de France. Victoire oui. du Paris Saint-Germain, 2-0 devant Fleury. Finale disputée à Montpellier. Bon, ça n'a pas été une grande finale, mais c'est un nouveau titre pour les filles du PSG.
Ouais, tout à fait. Un nouveau titre, et je dirais même un nouveau titre.
C'est la quatrième coupe
ouais,
gagnée
je crois
par le PSG.
La dernière fois, c'est en 2022, donc ça ouais. faisait quand même deux ans sans titre. Enfin, c'est un nouveau titre, c'est surtout un premier titre. Comme tu l'as dit, vraiment pas une très belle ouais. finale. Et le Paris Saint-Germain qui se retrouve à 10 à une demi-heure de la fin, quasiment une demi-heure, un peu moins, et qui gagne. Alors je voudrais quand même juste dire aux gens qui disent le foot féminin, effectivement, c'est pas mal critiqué, un peu encore dénigré. Mais il y a une raison quand même qui peut être intéressante, une seule raison pour voir jouer le Paris Saint-Germain, c'est leur attaquante là, Chawinga là, qui est exceptionnelle, qui a reçu le trophée de la joueuse de la saison, et c'est une joueuse qui est exceptionnelle quoi, c'est passionnant. Donc on peut s'accrocher un peu à ça. Katoto était absente pour ce match, a beaucoup manqué aux Parisiennes. Fleury a joué son va-tout, a peut-être cru à un moment qu'elle pouvait gagner, les filles de Fleury. Ils ont fait un très bon match. Et puis, quand ils sont passés à 10, comme disait l'entraîneur parisien, à 10, elles ont mieux joué. Et elles ont fait la différence.
Ouais. Alors lui, on va rappeler quand même, il a gagné 10 fois cette Coupe de France, c'est le club phare du ouais. foot féminin. Montpellier l'a gagné 3 fois et le Paris FC, ex-Juvisy, l'a gagné une fois.
Voilà, tout à fait. Maintenant, place au commun. Ouais.
Et il reste une journée chez les filles qui seront jouées donc mercredi. Et ensuite, on rentrera dans les play-offs. Mais enfin, on connaît déjà un play-off PSG ouais. et PFC. Hein.
Tout à fait. Et puis l'autre, ça sera Reims ou Fleury, justement.
Oui, voilà. contre Lyon.
Contre Lyon.
Voilà, un petit mot. On parlait du variété la semaine dernière. 4-1 pour l'équipe du variété contre cette équipe des prêtres. Ouais, quoi bah, c'était sympa, t'as eu des infos de
ouais, oui, j'ai eu quelques infos, mais surtout le match ouais. était diffusé oui. à la télé hein, sur ouais, la ouais. chaîne de l'Église catholique,
KTO. Oui,
ouais. Et donc,
j'ai vu d'ailleurs l'émission avec Jacques Vendroux. Ouais.
Voilà, ça aurait été dur de moi j'avoue, je me cache pas que j'ai pas tenu plus de 20 minutes quoi parce que mais voilà quoi. Bon, c'était ouais. Non, ce qui était exceptionnel, c'est quand même très émouvant, c'est ce voilà. moment de recueillement avant voilà, le match avec le rabbin de Paris, un évêque, un imam ouais. et un pasteur et le pasteur de Versailles quoi. Ouais. Donc ils ont chacun dans leur en français et dans la langue en yiddish ou en arabe pour l'imam, prononcer une partie de la prière, et c'était un moment de recueillement pour les victimes de Furiani.
En plus, il faut dire.
Pour ça, et c'était vrai, c'est vrai que c'est, c'est assez exceptionnel quand même.
Et tiens, pour revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière, il y a eu 57 500 euros qui ont été collectés pour les pièces jaunes.
Oui.
À plaisir.
Ouais, voilà, tout à fait.
On n'avait pas précisé. Merci Stéphane, tu restes avec nous. Juste un petit mot, je voulais quand même qu'on ait une pensée pour César Luis Menotti qui est décédé. Ça nous rappelle notre jeunesse, la Coupe du Monde 78.
Énorme entraîneur.
Et, très classe, toujours très. Ouais. Ouais.
Et puis voilà, ça nous rappelle que malheureusement, y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va tous y passer un jour.
Et je voulais que justement, elle m'avait demandé, Vanessa, un petit hommage aussi à un grand monsieur du foot qui nous a quittés. Elle va devant le micro. C'était donc Bernard Pivot qui est décédé aujourd'hui à 89 ans.
Oui, tout à fait. Et qui était un grand amateur de football.
Oui, voilà. Grand amateur de foot. Et puis, de vin, elle voulait juste...
Et qui, surtout, a beaucoup popularisé la culture pour tous. L'émission Apostrophe, Lady Codor, et puis Bouillon Culture, évidemment. Ouais, ouais. Et puis, aujourd'hui, juste un petit mot, parce que quand on regarde la dictée de cette année, il y a eu la grande dictée du sport. Finalement, c'est une continuation de ce qu'il avait fait. Donc, moi, je dirais qu'il y a un point commun entre le sport et puis la culture, l'orthographe, c'est le fait de se muscler, de s'entraîner au quotidien pour justement avoir cette rigueur, etc. Voilà.
C'était un grand monsieur, donc concernant grand passionné de foot aussi et grand supporter de l'AS Saint-Étienne.
Ouais, voilà. Saint-Étienne qui a dit notamment que le sport lui avait façonné son esprit d'équipe, lui avait appris l'esprit d'équipe justement à travers sa passion et le sport.
Très bien, merci Vanessa, merci donc à Alexandre, merci Stéphane, on vous retrouve dans au bout du foot, radio télé ce soir, hein. C'est une grande première.
C'est pour ça qu'on a sorti le maillot.
On se prépare pour l'Euro. Ouais. Merci Benoît, ça a été un plaisir avec Souleymane.
Toujours, toujours plus de notre côté.
On se retrouve le 10 juin, ça sera à l'ADER pour vous, le deuxième lundi.
Je crois.
Oui, c'est ça. Le 10 juin. Voilà, puis je vais remercier Mathieu Nicourt. Mathieu, juste un petit mot. L'arbitrage en MMA, ça se passe comment? Est-ce qu'on conteste beaucoup?
Alors, ça arrive qu'on conteste. Ça arrive qu'on conteste l'arbitrage en MMA. Après, c'est quand même rare.
Oui.
Il y a des arbitres qui sont très bien formés parce que les règles sont très, très précises. Ça se joue des fois à très, très peu de choses. Donc, le rôle de l'arbitre, c'est très très difficile parce qu'effectivement il fait un métier très très difficile et
ça va très vite en plus
et un peu ingrat parce que dès qu'il va y avoir une petite incertitude c'est lui alors qui va en prendre la gueule.
Est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'injustice parce que parfois c'est un petit peu le cas en boxe ou dans des sports de combat on se trouve que la décision n'est pas très, très favorable et légitime. Il y a ce même sentiment en MMA?
Alors il peut y avoir ce même sentiment d'injustice, après s'il y en a beaucoup j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que des fois la victoire se joue à très très peu de choses. Et que des fois, une partie des spectateurs a vu quelqu'un vainqueur et que les juges en décident autrement.
D'accord.
Okay. Ça arrive quelquefois.
Ok. Donc, on va finir. Si on veut venir vous rejoindre après cette émission, vous rappelez vos lieux d'entraînement et de compétition et de préparation.
La Free Fight Academy, donc à Paris 13e, au gymnase de la Pointe d'Ivry, 47 avenue d'Ivry, à côté du métro Porte d'Ivry et à Vitry-sur-Seine. Et toutes les infos et les inscriptions, tout se fait en ligne sur le site. Il faut aller sur freefightacademy.net.
Il faut payer d'avance,
c'est ça. Alors, il faut payer en ligne. Tout est informatisé, c'est très facile. Il y a freefightacademy.net, bouton inscription. On choisit sa formule, paiement en ligne. On peut choisir en une, deux ou trois fois. Et ensuite, on est validé pour commencer l'entraînement.
Très bien. Et pour finir, le prochain film, c'est quand?
Alors le prochain film, comme on le disait, j'en sais jamais rien.
Je voulais finir là-dessus.
J'en sais jamais rien, donc qui vivra verra, qui vivra verra.
Eh ben justement, je voulais finir, mais je vais remercier Jason et puis donc Léonard pour la mise en place technique de cette émission. Et puis je voulais finir avec celle que vous aviez enlevée dans le cinéma, Vanessa Paradis, Be My Baby. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Dans un instant, au bout du foot avec Malik. Bonne soirée. We'll be right back.